l'heure du journal. François Claus.
Le renouvellement de la période de confinement pour 2 semaines supplémentaires, soit jusqu'au mercredi 15 avril.
C'était cet après-midi le Premier ministre Édouard Philippe à l'issue d'un Conseil des ministres exceptionnel, confirmant ce qu'on attendait, une prolongation de 15 jours du confinement avec ce petit mot jusqu'au 15 avril au moins, comme s'il fallait préparer l'opinion à une période encore plus longue. Le cri d'alarme ce soir des médecins en Île-de-France, les hôpitaux au bord de la saturation, 48 patients du Grand Est devraient être transférés en train médicalisé vers le Grand Sud-Ouest au cours du week-end pour une opération médicale inédite que nous décrira dans ce journal Stéphane Place, notre correspondante à Bordeaux. L'OMS lance un véritable cri d'alarme qui résonne étrangement aux oreilles françaises. Le manque de protection pour les personnels médicaux est un danger immédiat, dit l'OMS. Pendant ce temps-là, les États-Unis sont en passe de devenir l'épicentre de l'épidémie. 345 décès aujourd'hui, près de 100 000 cas décelés. Nous serons dans un instant avec le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis, Xavier Yvon. Et puis l'Angleterre qui s'attend et qui redoute le pire dans les prochaines semaines. Voilà que son Premier ministre, Boris Johnson, si sceptique sur la pandémie, se confesse cet après-midi sur Twitter.
I developed mild symptoms of the coronavirus, that's to say a temperature and a persistent cough. They've taken
oui, j'ai développé des symptômes et de la toux. Je suis positif, dira le Premier ministre qui précise qu'il va continuer à gérer les affaires du pays. Gwendoline Debono nous expliquera ce qui se joue en Angleterre dans les prochaines heures. Nous irons également dans ce journal à Saint-Nazaire, où une cellule de crise a été installée ce soir pour cette croisière absolument étonnante, où 1500 membres d'équipage étaient montés sur un bateau avant le confinement. 29 cas ont été décelés ce soir à bord. Il va falloir transporter, rapatrier et protéger les membres d'équipage qui sont à bord. Quand le virus réveille tout ce qu'il y a de plus sombre en nous, plus de 30% de hausse des violences conjugales en période de confinement, le directeur de la Fédération France Victimes témoignera sur Europe 1 ce soir. Dans cet univers d'informations très sombre, voilà une voix d'outre-tombe qui soudain nous réjouit malgré tout.
Wolfman, oh Wolfman, oh Wolfman, how? Rub-a-dub-dub, it's a murder most foul.
Et oui, nous avons reconnu le prix Nobel de littérature, le grand Bob Dylan. Après 8 ans de silence, il revient avec un titre pour ses fans, un titre de 17 minutes. Nous en écouterons un extrait, promis, à la fin de ce journal. Comme tous les soirs, bien sûr, dans ce journal, le point sur les bourses, tout à l'heure avec Claire Lemaître, ça chute durement après 3 jours de rebond. Et puis l'interview économique d'Emmanuel Duteil, qui reçoit ce soir Hubert Carré, le directeur général du Comité national des pêches, un secteur lui aussi en grande difficulté.
Europe 1, écoutez le monde changer.
C'était attendu, c'est confirmé officiellement dans la voix du Premier ministre cet après-midi. Rappelons qu'en Chine, le confinement du côté de Wuhan, l'épicentre de l'épidémie, a duré près de 100 jours. Rappelons qu'en France, les experts préconisent un confinement de 6 semaines. Édouard Philippe, cet après-midi, à l'issue d'un Conseil des ministres exceptionnel, a confirmé devant les Français que ce confinement était appelé à durer.
Au terme de ces 10 premiers jours de confinement, il est clair que nous n'en sommes encore qu'au début de la vague épidémique. C'est pourquoi, avec l'accord du président de la République, j'annonce aujourd'hui le renouvellement de la période de confinement pour 2 semaines supplémentaires à compter de mardi prochain, soit jusqu'au mercredi 15 avril. Les mêmes règles que celles actuellement en vigueur continueront à s'appliquer. Cette période pourra évidemment être prolongée si la situation sanitaire l'exige. Vous savez que le conseil scientifique qui éclaire les décisions du gouvernement évalue à au moins 6 semaines au global la période totale de confinement. Il est encore trop tôt pour le savoir avec certitude. C'est la raison pour laquelle j'annonce cette décision.
Voilà ce que disait Édouard Philippe à l'issue d'un conseil des ministres en visioconférence cet après-midi. Il parle évidemment d'une vague. Ce soir, les médecins qui dirigent les hôpitaux en Île-de-France sont extrêmement inquiets. L'Île-de-France qui compte 1500 lits de réanimation. À l'heure où nous parlons, 1300 sont occupés par des patients atteints du Covid-23. 500 lits avec les personnels nécessaires autour de ces lits de réanimation devraient être déployés en Île-de-France durant le week-end pour faire face à l'arrivée des nouveaux patients, mais il faudra organiser des transferts, vraisemblablement dans la semaine prochaine. Ces transferts, ils sont en cours dans le Grand Est, déjà en situation de saturation dans ces hôpitaux. 48 patients atteints du Covid-19 devraient être transférés ce week-end, dimanche, nous dit-on, avec des trains médicalisés vers des hôpitaux du Grand Sud-Ouest pour Stéphane Place, une opération organisée en toute urgence.
Oui, tôt ce matin, le directeur de l'Agence régionale de santé ici en Nouvelle-Aquitaine a reçu un coup de fil du cabinet du ministre avec une question. Pouvez-vous prendre en charge une cinquantaine de patients chez vous ? L'ARS a alors contacté un par un les hôpitaux de Poitiers, de Limoges, de La Rochelle, d'Angoulême, de Niort, de Libourne, de Pau, de Bayonne, une clinique privée bordelaise aussi, en tout 10 établissements de la région pour arriver à répartir cette quarantaine de malades. Ce sont deux TGV médicalisés qui vont assurer dimanche ce transfert du Grand Est vers le sud-ouest. Michel Lafourcade est le directeur de l'ARS.
Nous allons occuper à la fin de ce week-end à peu près le quart des lits qui étaient disponibles en réanimation à l'heure actuelle. Nous avons bien pesé le pour et le contre, hein, parce qu'il ne s'agit pas de désorganiser l'offre néo-aquitaine dans la mesure où personne n'est capable de dire à ce jour quelle sera l'animation de la vague. Le pari qu'on a fait, un pari très rationnel, c'est avec les trois quarts de disponibilité qui subsistent, on doit pouvoir venir en aide à cette région-là sans nous pénaliser.
Avec la SNCF, les médecins ont 24 heures pour préparer ce qui constitue la plus importante évacuation sanitaire depuis le début de cette crise. Dimanche, le premier TGV médicalisé s'arrêtera à Poitiers, le second à Bordeaux, puis à Bayonne.
Stéphane Place, le correspondant d'Europe 1 dans le Grand Sud-Ouest. Ailleurs dans le monde, évidemment, la pandémie est également là et crée ses dégâts. L'Organisation mondiale de la santé lance un véritable cri d'alarme ce soir et estime que la pénurie d'équipements pour les soignants est une véritable menace immédiate. En Italie, on pourrait retenir ce soir deux chiffres. 1000, c'est le nombre de décès pour la seule journée. C'est évidemment une espèce de record extrêmement inquiétant, mais on pourrait retenir ce chiffre également. 7,4%, c'est l'augmentation du nombre de contagions en 24 heures et c'est le taux le plus bas depuis l'arrivée du virus en Italie. En Grande-Bretagne, le virus fait également son chemin jusqu'au plus haut sommet du pouvoir. Après l'héritier de la couronne, le prince Charles, c'est le Premier ministre Boris Johnson et son ministre de la Santé qui sont tous les deux contaminés et qui l'ont confirmé cet après-midi, Gwendoline de Bonneau.
Et c'est Boris Johnson lui-même qui l'a annoncé en postant cette vidéo sur Twitter.
Hi folks, I want to bring you up to speed with something that's happening today, which is that I've developed mild symptoms of the coronavirus.
J'ai développé de légers symptômes du coronavirus, dit-il, l'air plutôt en forme, de la fièvre, une toux persistante et le test s'est révélé positif. Boris Johnson explique qu'il est confiné mais qu'il continuera à travailler. Le Premier ministre n'est pas le seul au sein du gouvernement britannique à avoir contracté la maladie puisque son ministre de la Santé a également été testé positif. Il faut dire qu'encore récemment, Boris Johnson n'était pas franchement un adepte des gestes barrières. Début mars, alors qu'il visitait un hôpital, le Premier ministre se vantait de continuer à serrer des mains, même celles des patients atteints par le Covid-19. Se pose donc la question de savoir combien de personnes Boris Johnson a pu contaminer. Buckingham Palace a fait savoir que sa dernière rencontre avec la reine remontait au 11 mars dernier. Selon le palais, Elisabeth II est en bonne santé, toujours dans son château de Windsor, à 40 km de Londres, alors que son fils, le prince Charles, souffre lui aussi du Covid-19.
Merci Gwendoline de Bonneau. Grosse inquiétude aussi aux États-Unis, qui est désormais clairement le pays le plus touché de la planète. On n'est pas loin des 100 000 cas. Xavier Yvon, notre correspondant à New York, on vous retrouve en direct ce soir. Et Xavier, c'est une progression absolument exponentielle.
Ah oui, la courbe des contaminations monte en flèche. L'épicentre ici, c'est New York pour l'instant, qui concentre plus de la moitié des cas aux États-Unis. Et ça se voit d'ailleurs devant les hôpitaux avec des très longues files d'attente à l'extérieur, des malades portant des masques. Des médecins décrivent déjà une situation apocalyptique aux urgences. Les hôpitaux sont lancés dans une course contre la montre pour augmenter leur capacité. Il y a un grand centre des congrès de New York qui a été transformé en hôpital. Il va ouvrir lundi. On a aussi fait venir des camions réfrigérés pour suppléer les morgues quand elles seront pleines. Et ça, ce n'est que New York. On voit la carte des contaminations commencer à grossir ailleurs, Chicago, Détroit ou la Nouvelle-Orléans qui commence sérieusement à inquiéter. Car le carnaval, ces deux derniers mois, pourrait avoir agi comme une bombe à retardement. Des centaines de milliers de personnes qui se sont serrées les unes contre les autres pour faire la fête dans les rues de la capitale de la Louisiane. Les vacances des étudiants aussi en Floride pourraient avoir accéléré la propagation du virus. Vous savez, c'est le fameux spring break, les foules de jeunes qui font la fête sur les plages et puis qui rentrent ensuite dans leur état, dans leur ville, un peu partout. Aux États-Unis, on essaie de se préparer et on constate qu'il va manquer de masques, de tests, de respirateurs pour faire face au tsunami coronavirus qui s'apprête à déferler.
Merci Xavier Yvon, correspondant d'Europe 1 à New York. On retiendra de l'actualité de ce jour cette image qui restera vraisemblablement dans l'histoire. Le pape François qui était absolument seul sur le parvis du Vatican, sur la grande place de la basilique Saint-Pierre de Rome, absolument déserte, a adressé ce soir une bénédiction inhabituelle qui a été retransmise par Internet en 8 langues différentes.
Europe 1, François Claus.
C'est un véritable imbroglio diplomatique et une situation absolument inédite qui se joue en ce moment même du côté de la sous-préfecture de Loire-Atlantique de Saint-Nazaire. Un navire de croisière devait être livré la semaine prochaine. À son bord, 1400 membres d'équipage de 67 nationalités différentes qui sont montés dans le bateau avant que le confinement ne soit décrété pour en quelque sorte l'inaugurer. On a vu quelques vidéos sur les réseaux sociaux d'une véritable fête à bord. Ce soir, il faut payer très cher. Les premiers tests à bord ont été établis et ce ne sont pas quelques cas, mais 29 cas positifs, Charles Guyard, qui ont été relevés.
De 7 personnes déclarées positives au coronavirus, le bilan est passé à 29, dont une hospitalisée à Saint-Nazaire. Résultat de nouveaux tests effectués sur l'équipage international du Celebrity Apex, ce paquebot flambant neuf sorti tout droit des chantiers navals. Et voilà qu'à la crise sanitaire s'ajoute un casse-tête logistique et diplomatique, car le bateau livré à son armateur américain bat désormais pavillon maltais. Dessus, les 1417 membres du personnel ne sont donc plus officiellement en territoire français. Pour autant, il faudra bien assurer le rapatriement de toutes celles et ceux en bonne santé aux quatre coins du monde, puisqu'une soixantaine de nationalités sont représentées. Jean-Yves Roux, conseiller diplomatique auprès du préfet de la région Pays de la Loire.
Les personnes négatives, à ce moment-là, se verront autorisées à quitter le bateau dès lors que l'armateur a pour elles une solution pour les renvoyer à leur pays d'origine. Dans la mesure où il s'agit pour l'essentiel de ressortissants de pays hors Union européenne, on peut imaginer que ça sera la voie aérienne. Alors, sauf que il n'est pas très facile d'organiser pour le moment ce genre de déplacement. Maintenant, il y a probablement des tas de solutions qui vont être étudié.
Et en attendant, une équipe médicale envoyée directement par l'armateur doit arriver à Saint-Nazaire dans les tout prochains jours pour effectuer des tests sur l'ensemble de l'équipage. Nantes, Charles Guyard,
le correspondant d'Europe 1 dans l'ouest de la France. Et puis ce soir, cette inquiétude pour les femmes victimes de violences. Quand le confinement aggrave les choses. Les interventions des forces de l'ordre ont augmenté de plus de 30% depuis la mise en place des mesures, chiffres qui ont été confirmés aujourd'hui par le ministère de l'Intérieur. Inquiétude évidemment des femmes, des associations. Je vous propose d'écouter tout de suite le témoignage de Jérôme Bertin. Il est directeur de la Fédération France Victimes, un réseau qui regroupe 132 associations.
Plus d'un tiers des sollicitations par jour sont liées aux violences intrafamiliales, mais nous constatons en tout cas, oui, comme les forces de l'ordre, bien sûr, une augmentation des violences intrafamiliales, en tout cas de leur révélation. Et j'en appelle en effet à la vigilance de chacun. Je pense qu'il est temps d'oser entrer dans la sphère privée, prendre des nouvelles, garder le contact avec ceux que l'on estime victimes et alerter, agir. Les tiers, les voisins, la famille, les témoins peuvent eux-mêmes alerter les forces de l'ordre. Les personnes qui sont victimes peuvent fuir. Hein, on ne va pas leur reprocher, évidemment, de se déplacer sans attestation si elles sont victimes de violences au sein de leur domicile. Il n'est pas question d'attendre la fin du confinement pour révéler des violences que l'on subit à l'intérieur de son foyer.
Il répondait aux questions de Marion Dubreuil, le témoignage de Jérôme Bertin. L'un des conseils qui est donné par les associations, c'est éventuellement de se rendre dans une pharmacie où les pharmaciens sont absolument prêts à donner une aide en ce cas d'urgence. Puis il existe également ce numéro qu'il faut rappeler, le 116 006, 116 006, le numéro d'aide aux victimes. L'économie, parce que cette crise est aussi une crise qui sera demain dramatiquement économique, et cette nouvelle très forte qui a été annoncée par la Banque Centrale Européenne cet après-midi. Les entreprises vont devoir choisir. Un projet de loi est en préparation en France pour interdire aux entreprises de recevoir des aides de l'État, de verser des dividendes à leurs actionnaires en cette année et d'adresser plutôt leurs gains et leurs profits vers ce qui sera peut-être le monde de demain, celui d'une forme de partage et de solidarité collective. C'est ce qu'a assuré l'exécutif aux partenaires sociaux qui ont été réunis aujourd'hui. Maud Descamps, vous avez tous les détails de ce plan que veut mettre en place le ministre de l'économie, Bruno Le Maire.
Oui, pour le ministre de l'économie, il est important que les entreprises gardent leur argent cette année, car on ne sait pas combien de temps la crise va durer. Bruno Le Maire leur demande donc de la modération sur le versement des dividendes. Hors de question, par exemple, qu'une entreprise demande des reports d'échéances fiscales et sociales, mais verse des dividendes à ses actionnaires. Même chose pour les entreprises qui ont mis une grande partie de leurs salariés au chômage partiel. Il faut donner l'exemple, nous dit-on à Bercy. Et donc, pour les entreprises dont l'État est actionnaire, le ministre demande à ce qu'aucun dividende ne soit versé. Malgré tout, certains actionnaires estiment qu'il ne faut pas couper les dividendes dans les entreprises qui fonctionnent bien en ce moment. C'est le cas par exemple dans la téléphonie, explique Pierre-Henri Leroy du cabinet de conseil Proxinvest.
Il n'y a aucune raison qu'elle passe en dividende. Parce que vous avez les investisseurs, vous savez, c'est aussi beaucoup de petits gens. Et donc il faut absolument que les dividendes soient servis quand on peut les servir. C'est toujours la même idée, c'est-à-dire l'actionnaire doit être payé le dernier s'il en reste.
Plusieurs grandes entreprises françaises ont déjà renoncé à verser un dividende ou du moins réduit le montant initialement prévu.
Maud Descamps du service économie d'Europe 1. Dans un instant, nous ferons le point sur les bourses hein, qui, après 3 jours de rebond, ont durement chuté entre 4 et 5% de baisse aujourd'hui. Et puis, c'est une tradition du week-end. Nous sommes le vendredi soir, les fameux marchés partout en France. Les marchés, évidemment, cette période de confinement, ont été interdits. Interdits, mais pas toujours, parce qu'on peut, également obtenir certaines dérogations sur demande des mairies, uniquement dans certains cas, dans certaines conditions, parce qu'il faut de l'espace, il faut réduire le mont, il faut réduire les étals, bien évidemment. Ce sera le cas notamment du côté de Grenoble ce week-end, où Jean-Luc Boujon a obtenu quelques informations en joignant le maire Jean-Luc Boujon.
Oui, après un travail en collaboration avec le préfet, tous les marchés grenoblois, 35 au total, vont rouvrir, mais dans une version ultra light, hein, c'est-à-dire seulement 5 étals par marché, là où avant il y en avait 20, 30 ou 40. Alors sur chaque marché, on retrouvera l'essentiel, les fruits, les légumes, la viande, le poisson, le fromage. Et bien sûr, les clients devront respecter des mesures de sécurité renforcées, explique Lucille Lheureux, adjointe au marché à la ville de Grenoble.
Les clients sont tous maintenus à une distance d'au minimum 1 mètre des étals, donc il y a un système de barriérage qui empêche les clients de s'approcher des étals. Et ensuite, les clients ne se servent pas. Et désormais, c'est le commerçant qui vous sert. Donc le client n'a que son cabas et c'est le commerçant qui prend les légumes, qui les pèse, qui les met dans le contenant du client. Donc il n'y a pas de contact entre les clients et les produits.
Alors pour faire respecter ces mesures, un responsable sécurité sera présent du début à la fin des marchés et il y aura une rotation des producteurs. Ça va tourner de façon à ce que chacun puisse récupérer un minimum de revenus. D'où la satisfaction de Damien Mullier, il est producteur de fromage bio à Herbé, près de Grenoble.
C'est vraiment important régulièrement de vendre nos produits, même si c'est pas dans les mêmes conditions qu'avant. On est déjà très content de pouvoir faire ces marchés 2 fois par semaine à Grenoble. Moi, ce qui m'importe surtout, c'est vraiment d'écouler ce lait, quoi. Le lait pour chez nous, la viande pour d'autres, les poissons pour d'autres, etc. C'est pas tant le chiffre d'affaires que je recherche que d'écouler les produits pour être sûr de pas faire du surstock avant l'été. Si c'est déjà ça, c'est déjà très bien.
Voilà, garantir des revenus aux producteurs locaux, notamment par rapport à la grande distribution qui a assez peu de contraintes, eh bien c'est un des objectifs du maire de Grenoble, en plus d'offrir des points de contact alimentaire, surtout pour les personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer trop loin de chez elles.
Merci Jean-Luc Boujon, correspondant d'Europe 1 dans le sud-est de la France, du côté de Lyon. On peut noter que l'appel des agriculteurs qui manque, vous le savez, en ce moment, de mains, de bras pour aller travailler dans les champs et pour sauver les récoltes. On pense aux fraises, on pense aux asperges. La plateforme qui a été lancée par les jeunes agriculteurs de France pour demander à ceux qui seraient aujourd'hui confinés dans des régions de campagne, de venir travailler dans les champs, a reçu un accueil absolument exceptionnel. Plus de 100 000 réponses, ce qui permettra peut-être d'alimenter, sous les conditions de confinement que Jean-Luc Boujon vient nous définir, les marchés en région. Allez, pour terminer, une note de musique. Il n'y a rien de tel, finalement, pour subir le confinement que d'écouter un petit peu de musique. C'est une voix qu'on n'avait plus entendue depuis 8 ans. C'est celle d'un prix Nobel de littérature. J'ai nommé le grand Robert Zimmerman. Oui, Bob Dylan nous a fait une surprise ce soir. Il a lancé sur le net ce qui sera son prochain titre, une chanson unique. Elle dure 17 minutes, on ne va pas tout entendre bien sûr, mais je vous propose d'entendre M. Robert Zimmerman, Bob Dylan, 8 ans après. Perfectly executed, skillfully done. Wolfman, oh wolfman, oh wolfman, how? Rub-a-dub-dub, it's a murder most foul. Voilà, c'est un violon, un piano, quelques percussions. Il a 78 ans, Dylan. Ça s'appelle Murder Must Fall. Ça évoque l'assassinat de Kennedy. Et c'est le cadeau en cette période de confinement qu'il a offert à ses fans sur Twitter. De quoi, ma chère Adissa, ramener peut-être le soleil, au moins dans le sud de la France demain, Adissa?
Oui, c'est exactement ça, François, puisque demain, c'est sur la moitié sud que le soleil va briller et s'imposer. Sur les Alpes, d'ailleurs, quelques gouttes sont encore possibles dans la matinée demain. Sur les Pyrénées, la Corse et les Alpes, nous aurons des flocons à partir de 1700 mètres. Mais dans l'ensemble, il fera beau. Sur le reste du pays, la journée commence avec des bancs de brouillard. Et puis au fil des heures, les éclaircies vont se développer sur le nord-est. Et finalement, vous l'avez compris, c'est au nord-ouest, sur le centre également, les pays de la Loire, que le ciel sera très nuageux. Demain, côté température, nous aurons encore des gelées matinales demain avec moins 2 à Montluçon, moins 1 à Nevers, 0 à Clermont-Ferrand et Manosque, 3 pour Bordeaux, 5 à Paris et Lille et 7 à Marseille. Et puis dans l'après-midi, ça remonte un petit peu demain, 10 à 15 au nord-ouest sous les nuages, 15 à 18 partout ailleurs et jusqu'à 21 degrés au bord de la Méditerranée.
Merci Adissa. Une courte pause. Dans un instant, la bourse et l'interview éco tous les soirs. Et nous allons parler d'un secteur en pleine difficulté, la pêche.
Europe 1. Europe 1, radio ouverte.
Hashtag radio ouverte. C'est un vrai besoin d'être ensemble.
Et ce contact virtuel, vous, moi, il nous fait tenir le coup.
Oui, bonjour. Bonjour à tous les confinés, à tous les cons tout court qui se baladent toujours dans Paris.
Et surtout, on ne le dira jamais assez, restez chez vous.
Slimane est là.
Ça va ?
Les enfants, vous leur avez dit d'arrêter de vous déranger, au contraire, c'est le genre d'incident que vous adorez.
Mais ça. Les enfants, ils me font la misère.
Ah oui.
Europe 1, un seul numéro, 3921, 50 centimes la minute, et sur tous nos réseaux sociaux, avec le hashtag Radio Ouverte.
Europe 1, le journal de la nuit.
François Claus.
C'est l'heure, comme tous les soirs, de faire le point sur les bourses. Nous sommes avec Claire Lemaître de boursier.com. Bonsoir Claire.
Bonsoir François.
Alors Claire, la semaine se termine, je l'évoquais, dans le rouge à Wall Street. Après 3 jours de rebond, les marchés ont été rattrapés par les inquiétudes du moment.
Oui, le pessimisme fait son retour. Le Dow Jones repère un peu plus de 4%, 21 637 points. Le Nasdaq lâche 3,79% à 7 502 points. Les États-Unis sont désormais le pays qui affiche le plus grand nombre de cas de coronavirus dans le monde. Et ça inquiète, bien sûr, ça prend le pas sur les aides colossales votées par Washington pour soutenir l'économie. Parmi les grandes valeurs qui souffrent, on a Boeing qui perd encore 10%, Disney moins 8%. La banque JP Morgan cède 7%. Séance calamiteuse pour les compagnies de croisière. Finalement, elles ne devraient pas bénéficier des aides du gouvernement alors qu'elles sont touchées de plein fouet. Carnival Davis de 19%, Norwegian Cruise Line de 23%. Les cours du pétrole continuent de plonger, le WTI recule de 4,6%, 21,56 $ le baril. Et du côté des devises, l'euro gagne 0,7% à 1,11 $.
Et puis Claire, le marché parisien n'a pas résisté non plus à cette fin de semaine, il termine clairement dans le rouge.
Oui, le CAC 40 marque une pause après avoir rebondi d'environ 15% en 3 jours. De nombreux investisseurs ont préféré prendre leurs bénéfices avant le week-end. On termine donc sur un repli de 4,23% à 4351 points. Ça reste compliqué pour les valeurs liées au tourisme, très chahutées par l'impact de la pandémie. Accor Hôtel, le groupe hôtelier, chute de 9,8%. ADP, aéroport de Paris, perd 9%. Air France, KLM, moins 6%.
Alors Claire, la liste des entreprises qui ont renoncé à leurs objectifs annuels à cause du coronavirus s'est évidemment allongée aujourd'hui.
Oui, et si l'or Luxottica, le géant de l'optique par exemple, ne tiendra pas ses objectifs financiers, l'action perd 6,5%. Même scénario pour l'équipementier automobile Faurecia avec un titre qui recule de 6% à la clôture, moins 6% également pour LVMH. Ce soir, le numéro 1 mondial du luxe n'exclut pas une chute de 10 à 20% de ses ventes au premier trimestre par rapport à la même période en 2019. La semaine se termine en forte baisse en Europe. Londres chute de 5,2%, Francfort perd 3,7%, moins 3,6% pour Madrid, Milan moins 3,1%, Amsterdam moins 3,7% et à Paris, le CAC 40 perd 4,2% à 4351 points.
Merci Claire de boursier.com. C'est l'heure de l'interview éco, comme tous les soirs, avec le chef du service économique d'Europe 1, Emmanuel Duteil. Emmanuel qui reçoit ce soir Hubert Carré, directeur général du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins.
Bonsoir Hubert Carré.
Bonsoir monsieur.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le directeur général du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins. On parle beaucoup en ce moment de la situation des pêcheurs. Semble-t-il, il y a beaucoup de difficultés. On n'achèterait plus de poissons. Est-ce que vous pouvez nous le quantifier ?
Oui, alors la situation est un petit peu compliquée parce que ce qu'il faut savoir, c'est que pendant un mois et demi, les bateaux ont affronté des intempéries, étaient restés à quai. Ils sont tous sortis à peu près au même moment. Et lorsqu'ils sont rentrés, on a eu les mesures successives du gouvernement, à savoir la fermeture des écoles, des universités. La restauration collective s'est arrêtée. Après, il y a eu l'arrêt des restaurants et puis toutes les mesures de confinement. Si bien que la difficulté a été que les pêcheurs sont arrivés avec du poisson, mais malheureusement, il n'y avait personne pour acheter.
On peut avoir une idée de la baisse ?
À la baisse, elle a été très rapide. Ça a été d'un seul coup 75% en moins, quoi.
Quand le gouvernement lance un appel pour dire à la grande distribution « Achetez français et ne vendez que des produits français », ça marche aussi quand même aussi pour la pêche. Est-ce que là, ça reste un secteur qui fonctionne encore à peu près ?
Oui, alors tout à fait, c'est-à-dire que la grande distribution, mais aussi les poissonniers, la poissonnerie traditionnelle, avait décidé tout de suite de mettre en avant les produits français, de privilégier la production française. C'est ce qui est en train de se faire, avec effectivement des difficultés que rencontrent toutes les autres, secteurs économiques.
Mais j'imagine que le prix baisse, puisque là on est vraiment dans un secteur de la loi de l'offre et de la demande. Donc vu qu'il y a beaucoup d'offres du côté des poissons, moins de demandes, j'imagine que vous avez du mal à garder les prix corrects pour les producteurs.
Alors la semaine dernière, ça a été catastrophique. Cette semaine, comme les bateaux se sont arrêtés, on a 70% des bateaux arrêtés. Les 30% qui débarquent du poisson ont quand même d'assez bons prix. Voilà.
Est-ce qu'on peut malgré tout imaginer que l'on manque de poissons dans les jours à venir parce qu'aujourd'hui ce n'est plus rentable, ça ne sert à rien de sortir pour le peu de production dont on a besoin ?
Non, je pense qu'il y aura toujours du poisson. La difficulté, c'est d'accéder aux poissonneries, d'accéder à la GMS. Il y a des restrictions de circulation et ça décourage effectivement les consommateurs habituels. C'est notre souci.
Alors comment on fait maintenant pour aider tous ces pêcheurs ? Vous avez demandé des dispositifs d'aide pour les professionnels, où est-ce qu'on en est ?
Oui, alors on pourra bénéficier des mesures, je dirais, qui sont générales et qui ont été décidées par le gouvernement. La particularité, c'est que la pêche est soumise à la politique commune de la pêche, au même titre que les agriculteurs sont soumis à la PAC. Et donc, il faut que les mesures soient eurocompatibles. Et c'est en discussion actuellement à Bruxelles.
Et vous êtes rassuré sur ce point? Vous pensez que ça va aboutir?
On n'est pas forcément rassuré et on est assez impatient.
Assez impatient, ça veut dire quoi? Assez impatient que la décision arrive, que vous ayez un petit peu de visibilité.
Exactement, c'est que les mesures arrivent et que ça soit des bonnes décisions qui soient prises au niveau de Bruxelles.
Oui, alors il y a eu beaucoup d'annonces hein, au niveau du gouvernement. Vous disiez que c'est un petit peu particulier puisqu'il faut attendre que Bruxelles valide d'une certaine manière. Est-ce que ce qui vous remonte, c'est que c'est simple à faire ou est-ce que vous avez l'impression qu'il y a eu tellement d'annonces que tout le monde est un petit peu dans le flou?
Ben, pour nous, on reste encore dans le flou, effectivement, parce que on sait très bien qu'il y a des mesures qui vont être difficiles. Par exemple, le chômage partiel, ça va être un petit peu compliqué à mettre sur les bateaux. L'articulation entre les mesures nationales et les mesures européennes risque d'être compliquée, donc on va faire attention.
Après, combien de temps il faut pour que ça reparte du côté de la pêche? Au moment même où le confinement s'arrête, on peut repartir tout de suite ou il y a un temps de latence?
Moi, je pense qu'il y aura un temps de latence parce que, comme je vous le disais, il va falloir espacer le départ des bateaux pour espacer les arrivées, pour pas qu'on ait des coups d'accordéon entre des jours sans débarquement et puis des jours avec beaucoup de production.
Et dans tous les cas, vous êtes dans un secteur qui ne peut pas stocker. Vous, il n'est pas question de pêcher un peu pour le moment, de mettre de côté en attendant que ça aille mieux. C'est quasiment du temps réel du côté de la pêche.
Oui, c'est un avantage, contrairement à nos amis agriculteurs, parce que nos amis agriculteurs, ben, leur production est en train de pousser, ils ne peuvent pas la commercialiser, alors que nous, le poisson ou les coquillages ou les crustacés sont tranquillement dans l'eau, quoi.
Est-ce que vous vous sentez soutenu par la grande distribution, par votre réseau de poissonnerie? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir le soutien de la profession?
Oui, alors vous savez, il y a 7-8 ans, on a fait France Filière Pêche avec une marque Pavillon France où on travaille effectivement avec la grande distribution, on travaille avec les poissonneries traditionnelles et il y a une très grande solidarité et on essaye tous de faire face à cette crise.
Eh bien, un grand merci Hubert Carré, le directeur général du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, d'avoir été notre invité ce soir sur Europe 1.
Je vous remercie, bonne soirée monsieur.
Et merci beaucoup à vous Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1. On vous retrouvera dès lundi. On peut noter, et vous l'avez sans doute vu vous aussi sur Internet ces derniers jours, que le monde maritime revit également dans cette période. On a vu des dauphins dans les ports de Sardaigne comme on n'en avait plus vu depuis que les ferries ne peuvent plus circuler pour cause de confinement. C'est aussi cela la période que nous vivons. Un grand merci à tous ceux qui m'ont accompagné dans ce journal qui n'aurait pas existé sans eux. Cyril Pascal qui était à la réalisation, Patrick Lamy qui était au CDM et Geoffrey Henriot qui était au bocal, comme on dit à Europe 1, ceux qui sont là, qui prennent des risques, qui viennent au travail tous les jours pour qu'on puisse avec vous communiquer et transmettre des informations et que leur nom soit cité, était ce soir important.